La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Eh bien bonjour chers auditeurs auditrices, je suis Patrick Saporito de l'église protestante baptiste de Cahors. Gladys L. Ward, née en 1902, était une jeune fille pauvre d'Angleterre qui a travaillé comme domestique et rêvait de devenir missionnaire en Chine. Ayant échoué à son examen de chinois dans une société missionnaire, on ne lui proposa pas d'aller plus loin. Mais elle ne s'arrêta pas là. Avec toutes ses économies, elle s'est payée le voyage en train jusqu'en Chine, où elle a travaillé en compagnie d'une missionnaire dans une auberge, où elle en profitait pour annoncer l'Évangile. Elle a œuvré parmi les enfants, les orphelins et les plus nécessiteux, allant parfois jusqu'à risquer sa vie. Elle a contribué à lutter contre le douloureux bandage des pieds des fillettes chinoises. En 1938, la région est envahie par les forces japonaises et Gladys L. Ward part avec plus de 100 orphelins pour les mettre en sécurité à travers les montagnes, bien qu'elle soit blessée. Le film « L'auberge du sixième bonheur » que vous connaissez peut-être retrace sa vie. Bien que rejetée, jugée pas assez douée pour être missionnaire en Chine, cela n'a pas empêché le Seigneur Jésus de l'utiliser dans sa faiblesse, parce qu'elle a persévéré et a voulu lui rester fidèle. La prochaine lettre aux sept églises de l'Apocalypse, la sixième, s'adresse à une église modeste, ayant peu de puissance, mais restée fidèle au Seigneur. C'est la seule avec l'église de Smyrne à ne recevoir aucun reproche de la part du Seigneur. Pourtant, ce n'est pas pour autant qu'il n'a rien à lui dire. Cette lettre est là pour encourager les découragés, ceux qui ne se sentent pas à la hauteur, et aussi pour encourager ceux qui sont fidèles au Seigneur Jésus à le rester, pour éviter de se relâcher et de se reposer sur ses lauriers en se satisfaisant de peu. Je vous invite donc à prendre dans la Bible le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, donc jusqu'ici la parole de Dieu. Le verset 8 nous interpelle, je cite, « Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Fin de citation. On aurait été moins surpris de lire « Voici ». Tu as été assez puissant pour garder ma parole et ne pas renier mon nom. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce verset laisse entendre qu'on peut rester fidèle au Seigneur Jésus, même dans notre faiblesse. Je dirais même plus, justement à cause de notre faiblesse. Alors comment est-ce possible? Et où se trouve la clé de cette énigme? Eh bien voici la clé. Gardons la parole de vérité, la parole de Dieu, et elle nous gardera. C'est ce que je vous propose de voir en trois points. Premièrement, nous verrons quels sont les effets de ne pas garder la parole de vérité. Deuxièmement, nous verrons comment garder la parole de vérité. Et troisièmement, nous verrons quel est le résultat de garder la parole de vérité. Premièrement, voyons quels sont les effets de ne pas garder la parole de vérité, la parole de Dieu. Les deux seules églises qui ne reçoivent pas de reproches de la part du Seigneur, donc l'église de Smyrne et celle de Philadelphie, sont celles aussi qui subissent une opposition acharnée de la part de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Ce que Jésus appelle la synagogue de Satan dans chacune des deux lettres. Ceux qui ne gardent pas la parole de vérité et contre qui Jésus est le plus sévère sont des religieux tout extérieurs. Ils mentent, nous dit le texte, parce qu'ils nient la personne de Jésus comme étant le saint, le véritable, verset 7, autant d'attributs qui s'appliquent à Dieu. De ce fait, ils font Dieu menteur. Jésus, le saint, le véritable, par opposition à un imposteur, est celui en qui tout est vrai, certain, loyal et en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Ces religieux ont une religiosité tout extérieure. Ils jugent sur l'apparence, fonctionnent au mérite et croient au salut par les œuvres parce qu'ils rejettent le salut immérité par grâce. Ces systèmes religieux puissants soignent l'apparence, veulent des cultes spectaculaires avec une puissance miraculeuse visible, beaucoup de monde, beaucoup d'argent, et regardent avec condescendance les autres plus modestes, peu puissants. Cette lettre est là pour dire aux petites églises de ne pas les envier. Les sept lettres aux sept églises montrent que l'église avec un grand E est organisée en église locale plutôt qu'en grandes institutions religieuses. En témoigne ce refrain qui termine chaque lettre au verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Fin de citation. Vous savez, ce n'est pas le spectaculaire qui sauve et rend les gens meilleurs. On est à une époque où les gens ont soif de surnaturel. Les Juifs ont vu des miracles, tels que la mer Rouge qui s'ouvre devant eux pour les laisser passer, mais cela n'a pas suffi à les rendre obéissants ni meilleurs, ni à leur enlever leurs péchés, ni les nôtres. En ouvrant une porte aux Hébreux à travers la mer Rouge, Dieu avait fermé cette même porte aux Égyptiens qui les poursuivaient, la mer s'étant refermée sur eux. En libérant Israël, Dieu voulait se faire un peuple qui le serve, mais Israël échouera. Jésus ouvrira une meilleure porte d'espérance au monde entier cette fois, à la croix. Il a été crucifié avec une couronne d'épines. C'est nous qui aurions dû avoir la couronne d'épines, parce que les épines représentent notre péché. Vous savez, les ronces sont apparues après la chute d'Adam et Ève. Jésus a échangé sa couronne glorieuse contre la nôtre. Il a reçu toute autorité de la part du Père par sa résurrection d'entre les morts. Jésus se présente dans cette lettre comme, verset 7, je cite, « le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Fin de citation. Celui qui tient, je cite Apocalypse 1, verset 18, « les clés de la mort et du séjour des morts. » Fin de citation. A aussi les clés du royaume de Dieu pour ouvrir ou fermer définitivement l'accès à la Jérusalem céleste. Il est le fils de David, le saint, le véritable, la vérité, chemin unique vers le Père, c'est Jésus-Christ. Et il a non seulement les clés, mais il est lui-même la seule porte d'entrée à son royaume. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, nous dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Fin de citation. Vous connaissez certainement, du moins ceux de ma génération, la chanson « On ira tous au paradis ». Eh bien non. Seuls ceux qui auront franchi cette porte par la foi en Christ et la repentance seront sauvés de leurs péchés et admis dans la maison du Père, car Dieu est saint. Les autres, non repentis, non croyants, seront exclus. Jésus le dit clairement dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 25. « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Fin de citation. C'est une chose de ne pas croire, mais à s'obstiner à ne pas croire, il y a le risque d'un endurcissement jusqu'à empêcher les autres de croire. Les Juifs qui devenaient chrétiens étaient exclus de leur synagogue par de faux Juifs qui mentaient en fermant la porte à l'Évangile, leur disant en quelque sorte « Vous les chrétiens, vous êtes exclus du royaume, c'est nous les élus. » C'est oublier que Dieu aime tout le monde, juif et non-juif, et nous accepte tels que nous sommes lorsque nous venons à lui. Celui qui ouvre et personne ne ferme est aussi celui qui ferme et personne n'ouvre. Il y a là un avertissement sérieux pour tous ceux, juifs ou pas, qui empêcheraient quelqu'un de devenir chrétien. Ceux qui les excluent seront eux-mêmes exclus du royaume, à moins qu'ils ne se repentent. Ça s'adresse aussi à certains adultes qui empêchent les enfants de venir à Jésus. Mais il y a aussi des chrétiens qui ont franchi la porte du salut en croyant en Jésus et qui ont voulu franchir une deuxième porte en quelque sorte pour servir et devenir missionnaires, mais qui se sont vus fermer cette porte parce que certains leur ont dit qu'ils n'avaient pas le don pour devenir missionnaires, comme ce fut le cas pour Gladys Aylward. Deux attitudes sont possibles face à cette porte fermée. Soit on se dit, puisque c'est comme ça, après tout ce que j'ai fait, ce n'est plus la peine de continuer, je quitte mon assemblée. Eh bien ça révèle une mauvaise attitude, une mauvaise motivation, celle de vouloir plaire aux hommes avant de vouloir plaire à Dieu. L'autre alternative, c'est eh bien de l'accepter en se disant « Dieu est souverain de toute manière, il fait ce qu'il veut, je persévère, je continue à lui rester fidèle et à le servir, même si ce n'est pas comme je l'imaginais, même si personne ne me voit ni ne me connaît, même si je n'ai pas le soutien financier, même si c'est dans des petites choses. » L'important est de se savoir connu et aimé du Seigneur. Et il a certainement un plan pour ma vie. Si tu es chrétien, Christ regarde avant tout ta fidélité, pas tes performances. Ça, c'est le critère d'évaluation du monde. Voyons mon deuxième point. Comment garder la parole de vérité et lui rester fidèle? Ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est que nous soyons trouvés fidèles dans là où les tâches qu'il nous confie, qu'elles soient grandes ou petites. Ce n'est pas le nombre qui compte. Dans la parabole des talents, en Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, Jésus donne exactement la même réponse à celui qui avait reçu les 5 talents et gagné 5 autres, et celui qui en avait reçu 2 et gagné 2 autres. La voici, en Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Fin de citation. Tu veux servir Jésus ? Sois fidèle déjà dans les petites choses, même si des portes se sont fermées pour toi. Et il te confiera les grandes. Quelle est la clé pour rester fidèle dans la faiblesse, sans puissance? L'église de Philadelphie était une église sans puissance, avec des œuvres sans éclat ni force, mais elle n'a pas renié Christ, même devant beaucoup d'opposition. Pourquoi? Parce que la vraie puissance est de se savoir faible en soi-même et d'être fidèle à celui qui est le véritable et la vérité, Jésus. L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, nous dit « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Fin de citation. À notre époque, qui rejette les valeurs morales absolues, où on prétend que tout est relatif, même l'identité sexuelle, où on mélange le bien et le mal, eh bien restons attachés à la parole de vérité, la parole de Dieu, et elle nous gardera. Dans la Bible, le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 5, nous dit « Un témoin fidèle ne ment pas. » Mais un faux témoin dit des mensonges. » Fin de citation. Comment rester fidèle sans puissance en soi-même? Eh bien, c'est par la grâce de celui qui a la clé. L'apôtre Paul avait compris la grâce quand il avait demandé à Dieu de lui enlever cette écharge dans sa chair et que Dieu lui avait répondu en 2 Corinthiens 12, 9 « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Fin de citation. La grâce et dans la parole même de Dieu, appelée « parole de persévérance en Jésus », verset 10 de notre passage, parce que c'est elle qui nous rend persévérants. Gardons la parole, elle nous gardera. Elle contient les promesses du Dieu qui ne peut pas mentir et sur lesquelles on peut s'appuyer comme celle-ci « Je te garderai à l'heure de la tentation mondiale », cette grande tribulation précédant le retour de Christ. Parce que Jésus va revenir. Nous serons gardés, le Seigneur l'a promis. Oui, il l'a promis et il est fidèle à ses promesses, mais il l'a promis à celui et celles qui auront gardé la parole de la persévérance où on trouve justement ses promesses, et pas à celui qui professe être chrétien sans l'être et qui s'attache plus aux traditions qu'à la parole de Dieu. La grâce est de se savoir guidé par l'amour inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ. Il nous aime même si on a peu de puissance. Cette assurance de son amour devrait nous pousser à abandonner nos péchés et à lui rester fidèles. Comment? En l'aimant à notre tour et en aimant nos frères et sœurs en Christ, par de bonnes œuvres. Et non pas faire beaucoup d'œuvres comme ceux qui ont une religiosité toute extérieure pour paraître meilleurs que les autres. L'amour se reçoit et se partage. Ce n'est pas par hasard si Philadelphie veut dire « amour des frères ». Dans leur faiblesse, les membres de l'église de Philadelphie ont gardé la vérité de la parole, non seulement en la proclamant, mais en la pratiquant. Le verbe « garder la parole » du verset 8 a le sens d'observer, de mettre en pratique. C'est donc une exhortation à veiller les uns sur les autres pour que l'amour ne se refroidisse pas pendant l'épreuve. Épreuve mondiale qui arrivera, je vais y revenir. L'amour consiste à ne pas faire tomber ses frères et sœurs en Christ en blessant leur conscience, à ne pas médire ou mentir à leur sujet, bref, à vouloir leur bien spirituel, en sachant être disponible, en priant pour eux, partager avec eux joie et souffrance. Dans sa faiblesse et sa fidélité, cette église de Philadelphie est tout entière approuvée collectivement par le Seigneur Jésus. Pourquoi ? À cause de la foi individuelle de ses membres. Parce que pour remporter une grande victoire en période de crise, il faut individuellement déjà commencer par en remporter de petites en temps normal, quotidiennement. Il faut de l'entraînement, de la persévérance. Pour remporter un marathon, il faut commencer par courir le 1500 mètres. Dans le livre de Jérémie, donc dans la Bible, chapitre 12, verset 5, nous lisons « Si vous ne pouvez soutenir le rythme d'une course à pied, comment pourrez-vous rivaliser avec des chevaux ? Et si vous êtes incapable de garder un esprit calme en période de beau fixe, comment allez-vous gérer des circonstances de crise, comme par exemple une grosse inondation du Jourdain ?» Fin de citation. Si vous voulez suivre un régime, diminuez progressivement les quantités, plutôt que d'un seul coup. Vous désirez une vie de prière plus fervente, mais n'arrivez pas à dégager une heure par jour. Eh bien, commencez par prier 5 minutes, puis 10, puis 15. Pareil pour votre lecture biblique quotidienne, si vous n'avez jamais lu votre Bible en entier. Décidez de commencer par lire quelques versets, puis augmentez progressivement et conformez votre vie à ce que vous avez lu et compris. On construit sa vie en posant une pierre après l'autre. Comme quelqu'un a dit, si vous adoptez l'attitude du tout ou rien, vous risquez de faire longtemps du surplace. Célébrez plutôt chacune de vos petites victoires. Je récapitule comment rester fidèle à la parole de Dieu. Eh bien, en restant dans la vérité, premièrement. Deuxièmement, en aimant les frères et sœurs en Christ. Et troisièmement, en ne méprisant pas les petits commencements. Voyons mon troisième point. Quel est le résultat d'avoir gardé la parole de vérité ? Gardons la parole de Dieu et elle nous gardera. Je cite verset 10, « À l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Fin de citation. Cette promesse vaut aussi pour récompense. Nous pouvons être sûrs qu'il y aura un temps d'épreuve dans le monde. Il y en a eu, il y en aura encore, il y en a déjà. Nous sommes dans un temps et dans un pays où pour le moment il n'y a pas de persécution comme en Corée du Nord ou en Afghanistan. Même si nous sommes impactés par la pandémie, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, la crise économique et j'en passe. Mais si déjà nous gardons l'évangile en temps de paix, si nous sommes fidèles déjà dans la liberté dont nous jouissons, même dans les petites choses, eh bien nous serons gardés par Christ à l'heure de la tentation. Voilà notre récompense. La même grâce divine qui nous rend persévérants en temps de paix nous rendra fidèles au temps de la persécution. À ceux qui auront gardé la parole, qui auront été fidèles, Christ promet, je cite, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Fin de citation. Il s'agit de la porte du ministère. « J'ai mis devant toi » peut se traduire par « j'ai payé ». C'est pourquoi cette porte ouverte pour servir et annoncer l'évangile, nul ne pourra la fermer pour la bonne raison qu'elle a aussi été payée par Christ lorsqu'il est mort à la croix pour nos péchés. Le chemin pour la conversion des païens est ouvert. L'église de Philadelphie était une petite église, peu puissante, mais n'était pas appelée à rester petite pour autant. Elle était appelée à grandir comme toute église. La ville de Philadelphie formait un carrefour vers l'Orient pour diffuser la langue grecque. Position stratégique pour l'église qui pouvait répandre l'évangile et la manière de vivre chrétienne parmi les nations. Le Seigneur revient bientôt. La Bible le dit. Alors attends-le. Si tu es chrétien, chrétienne, né de nouveau par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour toi et par la repentance, garde sa parole, la Bible et la couronne de vainqueur qu'il t'a acquise pour toi. Et il te gardera pour toujours dans son temple comme une colonne enracinée dans son amour. Tu fais partie de cette fiancée fidèle qui recevra le nom de son fiancé fidèle, Jésus-Christ. Sur chacun des croyants, Christ écrira le nom de son Père, le nom de sa famille, qui est la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, et son nom nouveau. La Nouvelle Jérusalem ne comporte pas de temple, elle est le temple. Et Dieu, Père et Fils, en est aussi le temple, voir Apocalypse 21, verset 22. Comme dans les autres lettres, la récompense suprême du vainqueur sera de connaître Dieu lui-même dans une intimité indestructible. Cette promesse d'une stabilité et d'une communion éternelle avec Dieu a dû parler aux habitants de Philadelphie à l'époque, parce que c'est une zone sismique. Ils partaient s'abriter en cas de tremblement de terre et vivaient sous des tentes après le tremblement de terre pour ne pas avoir à reconstruire. Fais-tu face à des tremblements de terre dans ta vie qui t'ont ébranlé? Eh bien, cherche refuge avant tout dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est livré pour toi. Demande-lui pardon pour ton péché et remercie-le pour son sacrifice à la croix pour toi. Et si tu es déjà chrétien, chrétienne, et que tu souffres peut-être du mépris des autres, eh bien le mépris ne dure qu'un temps. Jésus dit qu'il fera se prosterner aux pieds des vrais croyants, ceux qui les méprisaient, et leur fera reconnaître qu'il les a aimés.
Ésaïe chapitre 55, verset 6.